Radio Okapi.
Le journal, présenté par Belinda Bosuma.
Les magistrats ont besoin d'être couverts de la présomption d'innocence face aux discours populistes qui les vilipendent à longueur des journées. Le premier président de la Cour de cassation plaide ainsi auprès du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi et plusieurs autres personnalités participaient hier à la cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation. Le gouvernement congolais réaffirme sa détermination à recevoir tous ses ressortissants dans le cadre d'un retour volontaire respectant les conditions de sécurité et de dignité. C'est ce qu'a dit lundi à Genève le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. C'était à la 75e session du comité exécutif du programme du ACR. Et puis, l'invité de ce matin, Joël Nguissalé, inspecteur à la Direction générale des impôts de la province orientale démembrée à Kisangani. Il parle de l'importance de la réforme normalisée dans les opérations de vente des marchandises par les opérateurs économiques. Madame, Messieurs, bonjour. Avant d'aller plus loin, parlons sport d'abord. Fini le suspense, la RDC sera présente à la CAN Maroc 2025. Les Congolais ont pris le dessus sur les Tanzaniens à l'issue du match de la 4e journée joué hier à Dar es Salaam en Tanzanie. Score final 2-0. Ils comptent désormais 12 points, ce qui les met à l'abri de toute mauvaise surprise. Récit de Jean Gandou.
Les Léopards de la RDC ont eu leur sésame pour la CAN Maroc 2025 avec une victoire qui s'est dessinée en deuxième période. Pourtant, la possession des balles était pour les Tanzaniens qui devaient gagner ce match pour bien se relancer. Les changements opérés par le sélectionneur national Sébastien Desabre ont été plus que payants car ce sont les joueurs venus du banc qui ont sonné la révolte des Léopards. Les fauves congolais se sont donc imposés sur la marque de 2-0, but signé Meshack Elia. Ces buts libérateurs propulsent la RDC à la phase finale de la CAN Maroc 2025. Et cette qualification est une grande première pour la RDC qui atteint la phase finale à 2 journées de la fin et cela avec le maximum des points sans prendre le moindre but. Habitués au calcul de dernière minute, ainsi donc les Congolais sont dispensés de sortir leur calculette afin de chercher toutes les différentes combinaisons pour trouver les probabilités de se qualifier. Les Léopards ont donc rugi parmi les étoiles nationales tanzaniennes, ne leur laissant aucune chance de briller dans leurs propres installations. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans le sommaire, le premier président de la Cour de cassation s'adresse au président de la République. Les magistrats ont besoin d'être couverts de la présomption d'innocence par rapport aux discours populistes qui les vilipendent à longueur des journées. Élie Léon Ndomba s'est ainsi exprimé à l'occasion de la rentrée judiciaire de cette institution. C'était hier dans une audience foraine au Palais du Peuple devant Félix-Antoine Tshisekedi et plusieurs personnalités politiques, membres du gouvernement, magistrats, avocats et auxiliaires de la justice. Trois moments forts ont marqué cette audience solennelle, à savoir le discours du premier président de la Cour, la mercuriale du procureur général près la Cour et l'allocution du bâtonnier national. Jeff Ngoy, reportage.
Parlons d'abord de ce discours d'Élie Laurent Ndomba axé sur l'importance du rôle spécifique du greffier. Comme dans une métaphore, si le juge était le capitaine du navire, le greffier en serait le moteur. Sans lui, indique le premier président de la Cour de cassation, la justice serait paralysée, incapable d'avancer efficacement. Il est en toute discrétion l'acteur principal du processus judiciaire. Léon Ndomba défend les magistrats culpabilisés gratuitement d'après lui, alors qu'ils jouissent du principe de la présomption d'innocence comme tout citoyen. Il informe l'auditoire des actions disciplinaires et pénales en cours et achevées devant les cours et tribunaux contre des magistrats verrés à travers le pays. Ensuite, la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjuridictionnelle. C'est le thème de la mercuriale du procureur général près cette cour. Firmin Vonde dénonce le tribunal des réseaux sociaux qui condamne les inculpés encore présumés innocents avant le juge. Enfin, le bâtonnier national Michel Chebele plaide pour la protection de l'avocat dans l'exercice de sa profession. Il déplore le fléau qui ronge la justice et ruine la profession, à savoir la corruption. Mais il insiste pour que cessent les arrestations brutales dont l'avocat fait l'objet et est souvent empêché d'accéder à son client pour l'assister.
Entre-temps, la vulgarisation des missions de l'inspection générale de la police nationale congolaise se poursuit maintenant dans les provinces disposant des antennes de cet outil du ministère de l'Intérieur en charge de l'audit, du contrôle, d'enquête et d'évaluation au sein de la PNC. De retour du Sud Kivu et du Nord Kivu, l'inspecteur adjoint de l'inspection générale de la PNC, Joly Limengo, affirme avoir encouragé ses collaborateurs des deux provinces à un engagement ferme pour accomplir leur mission de mettre de l'ordre et faire respecter les lois et règlements régissant la police nationale congolaise. Le compte-rendu de Billy Van Lutumba.
Cette vulgarisation des missions de l'IGPNC rentre dans le cadre de la campagne de sensibilisation lancée depuis février dernier par le ministère de l'Intérieur. La finalité étant de lever tout équivoque et confusion entre les attributions du commissariat général de la PNC et celles de l'inspection générale PNC. Joly Limbengo, inspecteur adjoint de l'IGPNC.
L'inspection générale de la police a pour mission de veiller à l'application stricte des lois et règlements pour le personnel de la police nationale et des directives et instructions et bon fonctionnement de celles-ci. L'inspection générale de la police s'est saisie d'office. Elle peut aussi être saisie sur l'instruction verbale ou écrite du ministre de l'Intérieur ou à la demande du Conseil supérieur de la police nationale congolaise, à la demande du Commissaire général de la police nationale congolaise, par rapport aussi aux certains écrits des autorités de la province, des entités territoriales décentralisées, sur base aussi d'une plainte par exemple ou dénonciation des citoyens.
C'est dans cette optique de sensibilisation que le personnel de l'IGPNC des deux Kivus sont rappelés à l'ordre et à la conscience de leur mission.
Vous devez sensibiliser, vous devez vendre notre image par tous les moyens. Des activateurs, nous ne voulons pas des. La police, elle est implantée parce que toute la province de Sud Kivu. Ils sont partout. Et ils commettent les habits, ils sont dans des bavures, et vous ne faites rien. Alors nous devons nous réveiller, nous devons travailler. On n'est pas ennemis parce que nous sommes tous les policiers.
Cette campagne qui se poursuit encore, souligne l'IGPNC, a pour objectif final de combattre toute forme d'antivaleur et promouvoir les droits humains.
Par ailleurs, notez que le département d'État des États-Unis d'Amérique a remis hier à l'inspection générale de la police du matériel informatique pour lui permettre d'accomplir ses missions de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête au sein de la police. Une dotation qui constitue un apport très capital à l'inspection générale de la PNC, notamment pour les services d'investigation encore dans le besoin de la logistique pour contrer toute bavure dans toutes les unités de la police, souligne son commandant, le commissaire divisionnaire principal Patience Mouchid Yav. Je vous le disais en titre, le gouvernement congolais réaffirme sa détermination à recevoir tous ses ressortissants dans le cadre d'un retour volontaire, respectant les conditions de sécurité et de dignité. C'est ce qu'a indiqué lundi à Genève en Suisse le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. C'était lors de la 75e session du comité exécutif du programme du ACR. Jacquemain Chabani a rappelé le contexte complexe des conflits armés qui continuent d'occasionner des déplacements forcés et massifs des populations, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. On écoute le vice-premier ministre en charge de l'intérieur dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Selon les statistiques du 30 septembre 2024, 1 063 997 réfugiés congolais ont trouvé asile principalement dans les pays limitrophes contre 522 798 réfugiés vivant en République démocratique du Congo. À côté de cela, depuis le début de l'année 2024, près d'1,5 million de personnes sont nouvellement déplacées, portant à environ 7,3 millions le nombre de déplacés internes, essentiellement dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est presque l'équivalent de la population de plusieurs pays à travers le monde. Ces déplacements s'accompagnent parfois par des drames irréversibles, notamment le viol des femmes et des filles, l'insécurité alimentaire, la non-scolarité des enfants, ainsi que de nombreuses pertes en vies humaines. Ceci est un appel à notre conscience collective à tous pour mettre fin à cette crise humanitaire passée trop longtemps sous silence.
Direction le Nord Kivu. Le volcan Nyamulagira, situé dans la chaîne volcanique des Virunga et voisin du célèbre Nyiragongo, est de nouveau en éruption depuis 22h locales de la nuit de dimanche 13 au lundi 14 octobre. Dans un bulletin spécial diffusé hier, l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, confirme l'événement en indiquant que le débordement des laves s'oriente vers le parc national des Virunga. L'OVG précise toutefois que cette nouvelle éruption de Nyamulagira n'est présente aucun risque immédiat pour la ville de Goma. Bernard Nyangi.
Selon le directeur de cette institution de recherche, les images par satellite montrent trois coulées de lave distinctes sortant du cratère de Nyamulagira, la plus avancée ayant déjà parcouru environ 7 km dans le parc. Cette nouvelle éruption de Nyamulagira, qui intervient moins de 2 ans après une autre plus récente, ne présente aucun risque immédiat pour la ville de Goma, indique l'OVG, alors que l'évolution des coulées de cette lave devrait faire objet d'une surveillance étroite. Le professeur Georges Mavunga reconnaît que, la zone étant sous insécurité, le suivi ne peut se faire qu'en distance. Aussi, cette éruption de Nyamulagira survient dans un contexte marqué par des tensions internes à l'Observatoire volcanologique de Goma où, depuis plusieurs semaines, une partie du personnel est en grève et seul un service minimum est tenu. Pendant ce temps, l'OVG affirme qu'au niveau du volcan Nyiragongo, l'activité reste aussi soutenue à l'intérieur de son cratère, mais qu'à ce niveau, l'alerte reste au niveau jaune, ce qui veut dire vigilance. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Rendons-nous en Ituri. La construction du marché Malina à Mwanga, dans le territoire d'Irumu, incarne bien plus qu'un simple lieu de commerce. Elle symbolise un espoir renouvelé pour les habitants en quête de paix et de stabilité. Ce projet, salué par le chef du groupement Babulogu, marque une étape significative dans la revitalisation d'une région autrefois ravagée par la violence des groupes armés. Avec l'ouverture de ce marché, des commerçants des diverses communautés commencent à réinvestir leur milieu, mettant ainsi en lumière la résilience d'une population déterminée à reconstruire son avenir. Jean-Claude Loki, reportage.
Construit par la MONUSCO en 2023 pour un coût total d'environ 5 000 $ américains, ce marché qui comprend 3 hangars et un bureau pour le chef de marché n'est pas seulement un espace de vente, mais un véritable point de ralliement pour favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cela représente une véritable satisfaction pour le chef de Mwanga qui considère ce marché comme un facteur contribuant à la cohésion sociale et au vivre ensemble avec les différentes communautés.
Ceci est un marché de pacification. Les gens ne venaient plus au marché des Mwanga. Depuis que ce marché est ouvert, tout le monde y accède sans discrimination. C'est vraiment une preuve de pacification.
Au regard du nombre croissant des marchands et d'acheteurs fréquentant ce lieu, les 3 hangars aménagés deviennent insuffisants. Une commerçante déplore ainsi avoir déjà perdu sa marchandise, endommagée par les eaux de pluie.
Nous souffrons sérieusement, nous les vendeuses d'huile, qu'on nous construise même 3 bâtiments pour nous aider, parce que des fois l'eau atteint notre huile et nous perdons beaucoup.
Plusieurs jeunes à risque ont également bénéficié de formations sur la maçonnerie. Ils ont été sensibilisés à renoncer à la voie des violences. Bounia, Jean-Claude Loki, Lille, Radio Okapi.
Province du Kwilu, quelques policiers blessés, un couvent et des maisons saccagées et 2 armes des policiers perdues. Tel est le bilan d'une vive tension survenue lundi après-midi à l'hôpital général de Mosango, situé dans le territoire de Massimanimba. La population s'est soulevée pour protester contre la mutation du médecin directeur de cet établissement appartenant au bureau diocésain des œuvres médicales. On écoute à ce sujet l'administrateur de Massimanimba, Emery Kanguma, appelle la population au calme. Il est joint par Irène Boma.
Le conflit que vous entendez de Mosango est causé par la remise et reprise d'une mutation que la direction de Bédéum qui a proposé. Selon la population, on me dit qu'il est le seul médecin qui est formé en os. Fallait qu'il soit ici parce que c'est la route principale, il y a beaucoup d'accidents. Comment on va limiter? Ça, c'était une tension qui était terrible. La population, comme c'est un événement qui a été déjà préparé, il y a eu un soulèvement terrible où même les policiers ne se comprenaient plus parce que les uns étaient même brebis, pas d'armes. On les a blessés, ils sont tous à l'hôpital. Plus de 7 ou 6 policiers qui sont à l'hôpital blessés. La population jetait les pieds et le médecin directeur lui-même, qui ne voulait pas la mutation, il était blessé aussi à la tête. Ces scientifiques sont partis saccager le couvent des sœurs, la maison du chef de secteur, la maison du préfet de l'ITEM, la maison du directeur de nursing et d'autres dégâts qu'ils ont faits. Et ils ont arraché même des armes. C'est ce que nous sommes en train de chercher avec le colonel qui est venu de Gibouti. On est en train de faire l'effort pour qu'on retrouve ces armes. Le message que je lance à la population, d'être calme, d'être apaisé.
Et dans le cadre de notre série de reportages intitulée « Le VIH SIDA à Beni, Butembo et Lubero, Nord Kivu », une crise silencieuse au cœur de l'insécurité, ce deuxième volet met en lumière l'absence de sensibilisation contre cette pandémie et les difficultés d'accès aux préservatifs pour la population locale. Une crise de santé publique déjà aggravée par l'insécurité qui continue de s'aggraver dans l'ombre. Martial Papimukeba, reportage.
Dans les régions de Beni Butembo et Lubero, la méconnaissance du VIH-Sida est omniprésente, particulièrement chez les jeunes. Nombreux sont ceux qui, en raison des manques cruels de sensibilisation, vivent sans connaissance des risques liés au virus. Un étudiant d'une vingtaine d'années partage son expérience.
On ne parle pas de VIH ici, pas de préservatifs, pas de sensibilisation. On vit dans la peur et l'ignorance.
Cette situation découle principalement de l'absence des campagnes de prévention, confirme le docteur Nikes Maté, responsable du PNLS à Beni Butembo et Lubero.
Les panneaux de sensibilisation, les émissions radio ont presque disparu.
Jean-Paul Capitula, responsable de la protection civile à Beni, lance un appel urgent pour le financement des campagnes de sensibilisation et la distribution gratuite des préservatifs pour protéger la population.
Ceux qui sont vulnérables, ce sont des femmes. Elles font des sexes et de survie. Toutes ces campagnes, sensibilisation, distribution gratuite de préservatifs, doivent être possibles que s'il y a des fonds alloués.
Le VIH-Sida reste une crise silencieuse à Beni Butembo et Lubero, exacerbée par l'insécurité et le manque de ressources pour endiguer sa progression. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Après son récent séjour en Suède, deux médias locaux citent le nom de l'international français Kylian Mbappé dans une affaire de viol et d'agression sexuelle, des accusations que le joueur réfute dans une publication sur X. L'agression aurait eu lieu le jeudi soir dans le centre de Stockholm, indique le quotidien suédois Expressen.
L'invité.
Il s'agit de Joël Nguissalé, inspecteur à la Direction générale des impôts de la province orientale démembrée à Kisangani. Il part de l'importance de la réforme normalisée dans les opérations de vente des marchandises par les opérateurs économiques. Joël Nguissalé est avec Jean-Claude Loki.
Inspecteur Joël Nguissalé, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Pourquoi sensibiliser les assujettis aux impôts sur la réforme de la facture normalisée?
La facture normalisée n'est qu'une étape d'une réforme qui a commencé il y a très longtemps avec des lois et des textes réglementaires qui accompagnent cette réforme qui a traversé plusieurs étapes, entre autres la réforme de la procédure et aussi la réforme des règles de fonds, c'est-à-dire les différentes natures d'impôts, avec la suppression de l'ICA, l'avènement de la TVA. Parce que l'ICA, c'était un impôt qui avait un caractère spoliateur, qui prenait plus de taxes et d'impôts au même moment, sur la même matière, plusieurs fois. Voilà pourquoi on a voulu corriger cette erreur en mettant fin à l'ICA pour instaurer la TVA, qui est une taxe sur la valeur ajoutée, qui ne concerne que le consommateur final qui supporte en définitive, qui n'est pas une charge sur les commerçants vendeurs. Cette réforme, la fiscalité congolaise, a évolué pour que ça se manifeste beaucoup plus clairement. Il y a des outils nécessaires, entre autres la facture normalisée.
Puisque vous en parlez, justement, dispositif électronique fiscaux, de quoi s'agit-il exactement? Comment ça va se passer? Parce que vous savez, notre milieu, Bounia n'est pas l'Ituri, il y a aussi des milieux ruraux. Dans ces coins-là, reculés de l'Ituri, ça va se passer comment? D'abord, commençons par là. C'est quoi le DEF?
Par définition, le dispositif électronique fiscal, c'est un mécanisme qui permettra désormais à tout commerçant, vendeur des biens ou des services, de produire une facture sécurisée, une facture normalisée. C'est en même temps aussi une facture qui ont des données stables, sûres et fiables. Et ces données sont partagées en temps réel entre les contribuables et l'administration fiscale. Donc, ça demande une connexion pour certains et d'autres aussi pas. Donc, là où il n'y a pas la connexion, on utilise le dispositif physique qui n'a pas forcément besoin d'une connexion Internet, mais qui permet une facture sécurisée.
Est-ce que vous pensez que tout le monde a le même niveau d'études pour comprendre le fonctionnement de cette nouvelle technologie?
Je connais les opérateurs, ils savent compter l'argent. Tous on a les téléphones, sans pour autant faire une académie pour utiliser les téléphones. Donc je crois que c'est un dispositif très facile à manipuler qui ne va même pas demander une formation spécifique appropriée ou nucléaire pour qu'on l'applique.
Quels sont les avantages de ce DEF?
Il faut faire un distinguo entre l'avantage des dispositifs électroniques de facturation
et la normalisation
de la DG. Non, c'est la normalisation en fait. Les dispositifs éloignés des factures fiscales, c'est ça la facture normalisée. Alors, l'avantage pour la DGI, c'est que nous aurons des données en temps réel. Ça, c'est un. De deux, de données fiables. Vous savez, le système efficace est déclaratif, donc chacun peut mettre les chiffres qu'il veut. Mais là, on est en face des données qui sont fiables, transmises à temps réel. Et il n'y aura plus de discussion sur le chiffre d'affaires entre la DGI et les contribuables. Parce que nous avons tous les mêmes données. On n'aura plus besoin d'aller faire des contrôles intempestifs pour tracasser les contribuables. Parce qu'on aura déjà les données avec nous. Voilà. Alors, maintenant, de l'autre côté, pour les contribuables, d'abord pour lui-même, ça va l'aider d'abord à avoir une comptabilité saine, correcte, juste. Parce que le dispositif fait directement un total automatique des biens, des objets vendus, des services vendus pour une période, avec précision. Ça peut faire un récapitulatif de tous ceux qui ont acheté en quantité comme en valeur. Soit pour une journée, soit pour un mois, il peut faire sa comptabilité de manière claire. Et puis ça va les aider à sorte que les vendeurs ne puissent plus aussi voler leur patron, parce que toutes les informations seront enregistrées. Il n'y a pas moyen de les supprimer.
Est-ce que vous pensez que tout le monde va adhérer à cette nouvelle
vision? Oui, mais déjà, vous avez vu avec moi ici comment les contribuables sont très contents de ces dispositifs et de facturation, parce qu'ils ont vu les avantages. Et nous sommes entrés d'ailleurs de le faire à votre présence. Ils sont très contents et ils souhaitent même qu'on l'applique le plus tôt possible.
Et ça sera quand justement la dernière question?
Nous sommes dans une phase d'abord de sensibilisation, de formation pour les cadres d'agents de la DGI, aussi pour les contribuables. Et la deuxième phase, ce sera une phase expérimentale où on va sélectionner un groupe de contribuables qu'on va soumettre à cette phase test et qui vont commencer à donner des rapports sur les difficultés rencontrées. Et avec le temps, ça va permettre aussi à notre administration d'améliorer la plateforme. Et sûrement, dans un temps très proche, on va maintenant généraliser officiellement l'application ou l'utilisation des dispositifs électroniques de facturation.
Joël Nguissalé, merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.